toi de faire du jour du repos un jour saint. Donc, nous allons passer, donc sans plus attendre à l'étude en fait, de ce quatrième commandement. Et donc là, je vais vous lire in extenso en fait, le passage d'abord dans le livre d'Exode, dont il est tiré. Donc là, je le lis dans la version Louis II. Donc Exode 20, si vous voulez bien ouvrir vos Bibles. Donc Exode 20, on va lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Donc Exode 20, verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc nous étudions donc le quatrième commandement, et en fait des 10 commandements, on peut dire que le quatrième est celui qui est sans doute, je dirais, le parent pauvre, et il y a beaucoup d'incertitudes et de confusion parmi les chrétiens concernant ce commandement. En fait, il y a beaucoup même de chrétiens évangéliques qui ne se considèrent pas tenus par le quatrième commandement. Ils sont prêts à respecter les 9 autres, mais ils ne respectent pas celui-là. J'ai même entendu dire qu'il y a des églises aux États-Unis, des églises évangéliques, où en fait, ils font leur culte le jeudi soir, donc le culte de la semaine, pour que les personnes puissent partir en week-end, le vendredi soir. Donc, manifestement, il y a une question autour de ce commandement. Et avant d'aller plus dans le détail de ce qu'il veut dire pour les chrétiens, je voudrais vous démontrer, en quelque sorte, ce qui est ma conviction, c'est que ce commandement fait partie à part entière des 10 commandements et est toujours valable pour les chrétiens. Puis ensuite, on regardera ce qu'il signifie sur le plan pratique. Donc, je dirais d'abord, un premier élément de confusion vient sans doute des échanges et un petit peu des altercations qu'il y a eu entre Jésus et les pharisiens sur ce sujet. On a plusieurs passages dans les évangiles où Jésus a fait en particulier des guérisons le jour du sabbat. Il en a fait beaucoup. Il a guéri un homme à la main sèche, une femme infirme depuis 18 ans, un homme qui était gonflé par la maladie, un jeune homme qui était aveugle de naissance. Et à cause de ces guérisons et du fait que, du point de vue des pharisiens, ne respectaient pas le sabbat, ils voulaient le tuer. Également, les pharisiens reprochaient aux disciples de Jésus de cueillir des épis dans les champs pour manger un jour de sabbat. Et donc, une lecture un peu rapide de ces passages laisserait croire que les pharisiens défendaient correctement la loi de l'Ancien Testament, alors que Jésus, en tout cas cette loi-là, il voulait l'abolir. Mais ce n'est pas le cas, parce que la loi du sabbat n'interdisait pas de cueillir des épis pour manger, et n'interdisait pas non plus de guérir quelqu'un le jour du sabbat. D'ailleurs, Jésus leur fait remarquer quelque chose de bon sens. Il leur dit donc dans Matthieu, chapitre 12, il leur dit « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. » Donc Jésus n'était pas en train d'abolir la loi du sabbat, mais il rectifiait l'interprétation erronée des pharisiens qui en fait avaient ajouté leur propre tradition et qui voulaient les imposer aux hommes comme si c'était en fait la loi de Dieu. C'est ce que leur dit Jésus en Marc, donc chapitre 7, verset 7, il dit à propos de leur rituel de purification avant les repas, donc il fallait se laver les mains, etc. Jésus leur dit « En donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il y a une autre objection aussi, peut-être, je dirais presque plus sérieuse, qui consiste donc en fait à traiter le quatrième commandement comme faisant partie des lois cérémonielles, qui étaient l'ombre des choses à venir, mais qui ont été abolies avec la venue. En fait, il y a un verset spécifique qui est assez fort, je dirais, qui est cité à l'appui de ce point de vue, qui se trouve en Colossiens 2, au verset 16. Colossiens 2, verset 16. Et donc ce verset dit la chose suivante, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Alors, il faut noter que ce verset utilise en fait le mot sabbat au pluriel, avec un S. Et en fait, il y avait Lévitique 3 décrit tout un ensemble de fêtes qui parsemaient l'année avec un ensemble de jours où on ne devait faire aucun ouvrage. Et en fait, Lévitique 23, donc appelait ces fêtes des sabbats, et donc il n'y avait pas un seul jour de sabbat, le septième jour, mais tout un ensemble d'autres jours qui portaient le même nom. Et donc, ces sabbats étaient englobés dans ces nouvelles lunes et ces fêtes du système cérémoniel. Donc il est tout à fait possible que Paul fasse référence à ces sabbats, donc des fêtes cérémonielles, dans Colossiens 2, mais pas au repos du septième jour. Et d'ailleurs, ce qui, quelque part, rend le sabbat du septième jour vraiment différent de ces autres sabbats, c'est qu'il est cité, il est le seul à être cité dans les 10 commandements, et les 10 commandements ne sont pas une loi cérémonielle, mais en fait, c'est un ensemble de lois morales. Et donc, le sabbat du septième jour ne serait pas à voir comme une loi cérémonielle, mais comme une loi morale. Enfin, il y a un autre grand élément de confusion pour les chrétiens, c'est que le repos de sabbat du quatrième commandement désignait le samedi. Donc, ce qui était en fait ce qu'on appelait le dernier jour de la semaine pour les Israélites, alors que les chrétiens pratiquent le quatrième commandement le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche. Et donc effectivement, ça c'est une question qui revient tout le temps, en particulier peut-être dans les échanges avec les adventistes, mais donc cette histoire du samedi et du dimanche. Alors il est clair que le Nouveau Testament montre que les chrétiens se réunissaient le dimanche et pas le samedi, et qu'ils avaient donc mis à part le dimanche pour le culte. On voit ça très clairement dans le livre des Actes, notamment par exemple dans le acte 20, donc à Troas, où il y a la résurrection, donc le passage de la résurrection du jeune homme Eutychus, qui se passe dans le contexte d'un culte du premier jour de la semaine, où il est dit « le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain ». Et de toute façon, on sait aussi que dans le Nouveau Testament, toutes les apparitions de Jésus ont lieu le dimanche. Les apparitions après sa résurrection, elles ont lieu le dimanche. Que l'apparition à Thomas, elle se fait donc une semaine après la résurrection, le dimanche. Et donc, les premiers chrétiens, manifestement, se réunissaient le dimanche, parce que Jésus était ressuscité le dimanche, et non pas le samedi. Alors quelqu'un dira, je comprends que les chrétiens se réunissent le dimanche, et que les juifs se réunissaient, les israélites se réunissaient le samedi, mais je ne vois toujours pas le lien entre le repos de sabbat des 10 commandements et le fait que les chrétiens se réunissent le dimanche. Alors le lien, il se trouve, et ça c'est très important, il se trouve dans le concept de repos de l'Éternel. Dans le concept de repos de l'Éternel. On a vu qu'Exode 20 dit que le sabbat, c'est le repos de l'Éternel. Et le verset 11 dit que Dieu s'est reposé le septième jour de son œuvre de création. Maintenant, concernant le sabbat, on ne va pas étudier ce chapitre en détail, mais il y a un chapitre clé dans le Nouveau Testament, c'est le chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux, qui traite, et on y reviendra, de ce repos de l'Éternel. Et notamment, il y a le verset 10 qui dit ceci, chapitre 4, verset 10, « Car celui qui est entré dans son repos se repose après ses œuvres, comme Dieu se reposa après avoir achevé les siennes. » Et en fait, si l'on considère que celui qui repose, celui, c'est Christ, on a l'idée que, comme Dieu est entré dans son repos, après son œuvre de création, Christ est rentré dans son repos après ses œuvres. Et l'œuvre de Christ, c'est l'œuvre de rédemption. C'est donc où il est rentré le jour de sa résurrection. Et donc, alors que le samedi fêtait le repos de Dieu après son œuvre de création, le dimanche fête le repos de Christ, qui est aussi Dieu, après son œuvre de rédemption. Et donc, c'est un dimanche, puisque Christ est ressuscité, le dimanche. Mais donc, finalement, le fait que ce soit un samedi ou un dimanche n'est pas si important que ça. Le jour de la semaine n'est pas si important. Ce qui est important, c'est que ce jour de repos est lié au repos de l'Éternel. Et donc, après la venue de Christ, c'est la dimension rédemptrice de ce repos de l'Éternel qui est mise en avant. Alors quand je dis que ce n'est pas important quel jour de la semaine, c'est important que tous les chrétiens se réunissent ce même jour-là. Ce que je veux dire, c'est que le fait que ce soit un samedi ou un dimanche n'est pas en soi un sujet fondamental. Ce qui est important, encore une fois, c'est que ce jour de repos est lié au concept de repos de l'Éternel. Et le repos de l'Éternel, c'est le repos après l'œuvre de création, mais c'est aussi le repos après l'œuvre de rédemption. Et donc, pour nous, c'est le dimanche, parce qu'il est clair que Jésus est ressuscité un dimanche. Maintenant, comment ce commandement s'applique-t-il de façon pratique aux chrétiens? Alors, je pense qu'il y a trois mots-clés, pour comprendre, pour répondre à cette question, il y a trois mots-clés dans les versets 8 à 11 d'Exode. Et ces mots, ce sont les mots donc repos, le mot béni et le mot sanctifié. Donc vous avez, donc à la première verset, verset 8, vous avez « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier ». Et puis, au dernier verset, verset 11, vous avez « C'est pourquoi l'Éternel a béni », donc là vous avez le mot « béni », le jour du repos et la sanctifié. Donc vous avez les trois mots, béni, repos et sanctifié. À nouveau donc, alors ce mot repos. D'abord le repos se traduit par un repos physique, puisqu'il est dit que ce jour-là, donc, vous travaillerez six jours, mais le septième jour, vous ne ferez aucun ouvrage. Il y a donc le commandement de ne pas travailler, et il est évident que Dieu a, si je puis dire, à l'esprit, ce souci du bien-être physique de son peuple. Dieu veut qu'il y ait un repos bien mérité du travailleur. Il doit travailler six jours et il a pleinement le droit de se reposer le septième. Et Dieu, d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'il ne se soucie pas seulement du repos du chrétien, il se soucie aussi du repos des bêtes dans ce passage. Même dans le Lévitique, on voit que Dieu se soucie du repos de la terre. Et d'ailleurs, c'est très important parce qu'il condamne le peuple d'Israël de ne pas avoir respecté donc, ce sabbat qui avait lieu en fait tous les sept ans pour le repos de la terre. Donc Dieu prend soin de sa création. Et puis remarquez aussi qu'il dit aux Israélites que ce repos est aussi pour les serviteurs, pour leurs serviteurs. Alors nous n'avons pas, nous, de serviteurs aujourd'hui. On n'a plus de serviteurs, mais il y a des gens qui nous servent, qui nous rendent service. Et notamment le dimanche. Ce sont peut-être des gens dans les magasins, par exemple. Et on doit réfléchir, nous aussi, en tant que chrétiens, si nous, on estime avoir droit au repos physique du dimanche. Ben, on doit aussi se demander s'il est bien normal d'aller dans un magasin ou dans un restaurant le dimanche et finalement à faire travailler, à obliger d'autres personnes à ne pas respecter le repos de sabbat alors que nous, tranquillement, on le respecte. Donc c'est une réflexion, je dirais, à avoir. Ce verset s'applique aussi à nous. Mais il y a plus que le repos physique. Il y a aussi une dimension spirituelle du repos. Il y a une dimension spirituelle du repos. Et donc, à nouveau, là, il faut qu'on revienne à Hébreux 4. Donc, on a vu que ce passage parle du repos de l'Éternel après son œuvre de création, du repos de Christ après son œuvre de rédemption. Mais une autre expression clé dans ce passage, c'est « entrer dans son repos ».« Entrer dans son repos ». Donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il exhorte ses lecteurs à « entrer dans le repos de l'Éternel ». Et on sort que, pour les hommes, « entrer dans le repos de l'Éternel », ça veut dire être sauvé. Et d'ailleurs, c'est intéressant que Jésus fait le lien clairement entre le salut et son repos, le repos que lui nous donne. C'est dans ce passage célèbre de Matthieu 11, si je ne dis pas de bêtises. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Donc, quand nous célébrons le repos de sabbat, nous célébrons le repos de l'Éternel dans lequel nous sommes entrés, c'est-à-dire le salut acquis pour nous par le Seigneur. Et donc le repos de l'Éternel devient notre repos. Nous entrons dans le repos de Christ et ça devient notre repos. Alors comment on peut célébrer ce repos? Il y a des exemples très clairs là-dessus dans le Nouveau Testament, notamment dans le livre des Actes, et par exemple dans le passage qu'on a vu de la résurrection de Titus. Et en fait, on voit que les chrétiens célébraient les quatre activités classiques. Ils faisaient les quatre activités classiques le jour du sabbat. C'était l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Et donc ces quatre activités, elles sont évidemment centrées sur celui qui nous a fait entrer dans son repos, c'est-à-dire Christ. Regardons ensuite le deuxième mot que j'ai cité, c'est la bénédiction. La bénédiction. Jésus a dit que le sabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Il a dit ça, Jésus, une phrase très forte. Et dans Exode 20:11, nous voyons que l'Éternel a béni le jour du repos. Il dit que l'Éternel a béni le jour du repos. Donc le repos de sabbat, il est pour notre bénéfice. C'est le repos du travailleur. C'est une journée de communion avec le Seigneur. C'est une journée de communion avec les frères et les sœurs. Et je dirais que c'est un avant-goût. Ça doit être vu comme un avant-goût de l'éternité. Donc pour beaucoup, le repos de sabbat, c'est une chose ennuyante. Et c'est pour ça qu'ils préfèrent aller au culte le jeudi soir. Et je pense que c'est parce qu'ils passent vraiment à côté de la bénédiction qui est liée au repos de sabbat. Mais c'est vrai que pour obtenir cette bénédiction, il faut se lever le matin, il faut aller se réunir avec les frères, il faut écouter le sermon du pasteur, il faut lire la parole, il faut prier, il faut chanter des cantiques. Et tout ça n'est pas du travail, mais c'est certainement pas de l'oisiveté, parce que le repos, ce n'est pas l'oisiveté. Et dans ces choses-là, il y a une dimension d'effort. Il y a une dimension d'effort, c'est indéniable. Et puis aussi, on se prive de choses. On se prive du match de foot, on se prive de la course à pied, on se prive du week-end à la campagne ou à la plage. Et ça, ce sont des choses qui sont difficiles. Mais il faut faire un choix. Et si nous voyons le dimanche comme une chose pesante, rappelons-nous que le Seigneur a béni ce jour. Il est un Dieu qui ne ment pas. Donc s'il dit qu'il a béni ce jour, si vous respectez son sabbat, il le bénira pour vous, parce que c'est un Dieu qui tient ses promesses. Donc, s'il a dit que ce jour est béni, il le bénira. Et nous devons lui faire confiance. Alors, certainement, certains se posent la question, et tout un ensemble de questions d'ailleurs très pratiques en particulier, nous est-il absolument interdit de travailler ce jour-là? Grande question. Que se passe-t-il si mon employeur m'impose de travailler ce dimanche, le dimanche? Et puis, tout un ensemble d'autres questions pratiques. Alors, on doit se rappeler que le Seigneur a condamné les pharisiens parce qu'ils avaient, pour leur légalisme à cause du sabbat, ils avaient édicté tout un ensemble de règles. Donc, on ne va pas nous se mettre à édicter des règles, dresser une liste de règles sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Bon, on voit toutefois que le Seigneur a soigné des gens le jour du sabbat. Et il l'a fait à de nombreuses reprises. Et il en a même parlé. Il a dit qu'on devait s'occuper d'un animal tombé dans un trou, par exemple. Donc, il serait surprenant que, ayant soigné le jour du sabbat, le Seigneur nous reproche d'en faire autant. Et il y a des métiers qui sont indispensables pour la communauté, comme en particulier les métiers de santé, surtout en ce moment. Et les chrétiens doivent faire leur part. Mais il semble qu'il y ait, derrière le fait d'avoir donc une activité qui est autre que l'activité, je dirais, chrétienne, il semble qu'il y ait un principe de nécessité, un caractère indispensable. Si vous êtes gravement malade, vous allez à l'hôpital, même un dimanche, et vous attendez en allant à l'hôpital, et c'est indispensable qu'il y ait des gens là-bas qui puissent vous accueillir, du personnel pour recevoir et pour vous soigner. Mais je pense que la question qu'il faut se poser, c'est: est-ce que la chose que je veux faire le dimanche est absolument indispensable? Est-ce qu'elle est nécessaire, cette chose ou ce travail que je veux faire le dimanche? Est-ce que c'est indispensable? Est-ce que c'est absolument nécessaire? Est-ce que je peux pas faire autrement? Je pense que, voilà, je n'irai pas plus loin dans cette question-là. Mais, et encore une fois, nous ne voulons pas faire une liste de règles. Je pense que les chrétiens doivent réfléchir en eux-mêmes devant la parole par rapport à ça. Enfin, il y a un troisième mot qui peut aussi nous éclairer d'ailleurs sur cette question, qui est, le troisième mot que vous regardez, c'est le mot « sanctifier ». L'Éternel a sanctifié le repos de sabbat. L'Éternel a sanctifié le repos de sabbat. Cela veut dire qu'il a sanctifié, c'est-à-dire qu'il a mis à part ce jour-là pour son usage exclusif, à lui, le Seigneur. Donc c'est comme dans le temple, il y avait des objets qui étaient sanctifiés, et ces objets, ils étaient mis à part pour le Seigneur, ils pouvaient servir que pour ça. Mis à part pour Dieu. Donc ce jour, le jour de sabbat, il devient son jour. Il appartient à Dieu. Et si nous craignons l'Éternel, nous devons réfléchir très sérieusement à l'usage que nous faisons de son jour. On doit bien méditer là-dessus en ayant à cœur la crainte de l'Éternel. Et on doit méditer en regardant les passages de la parole sur ce concept qu'on connaît peut-être pas trop d'ailleurs, le concept de quelque chose qui est mis à part pour Dieu, quelque chose qui est sanctifié. Et on doit se demander si ce qu'on veut faire le dimanche correspond, est compatible avec le fait que ce jour est mis à part pour Dieu. Voilà, je vais en rester là. Avant de vous quitter, je vais relire ce cantique, parce que je pense que après avoir donc fait ce message-là, il y a peut-être des choses qui feront écho dans cette lecture. Je pense que ce cantique saisit beaucoup de choses, donc je vous demande de l'écouter bien attentivement. Et puis en fait, et puis après je prierai et nous aurons terminé. Donc je vais relire ce cantique, moi. Ce cantique anglais, qu'on n'a pas en français, et qui traite donc du jour de sabbat. Ô jour de repos et de joie, ô jour de joie et de lumière, ô baume qui soigne les soucis et la tristesse, si beau et si resplendissant. Ce jour-là, au travers des âges, les puissants comme les humbles ont joint leur voix pour chanter « Saint, Saint, Saint soit le grand Dieu de la Trinité ». Ce jour-là, lors de la création, la lumière est apparue pour la première fois. Ce jour-là, pour notre salut, Christ est sorti des profondeurs de la terre. Ce jour-là, notre Seigneur victorieux a envoyé du ciel l'Esprit Saint, et ainsi, en ce jour très glorieux, une triple lumière a resplendi. Aujourd'hui, la manne céleste tombe sur des nations fatiguées. La trompette d'argent retentit en sainte convocation, où la lumière de l'Évangile brille de ses rayons purs et radieux, et avec l'eau de vie jaillissant, en courant qui rafraîchisse l'âme. Obtenant toujours de nouvelles grâces de ce jour de repos qui est le nôtre, nous nous dirigeons vers ce repos qui reste encore pour les âmes de ceux qui sont bénis. Louange au Père, au Fils et au Saint-Esprit. L'Église élève sa voix vers toi, Trinité bénie. Seigneur, tout un chacun, nous avons besoin que tu nous éclaires sur la sainteté du jour que tu as mis à part pour toi, la sainteté du repos de sabbat. Et Seigneur, nous avons très souvent certainement transgressé ta loi dans ce jour, par ignorance, par incompréhension. Et Seigneur, nous avons besoin que tu nous éclaires et que tu nous montres. Et donne-nous, Seigneur, que ce soit un jour de bénédiction. Donne-nous, Seigneur, de te faire confiance. Tu as dit que ce jour est béni. Alors, Seigneur, bénis-nous dans ce jour, lorsque nous nous réunissons, et même toute la journée qui est mise à part pour toi. Et Seigneur, fais-nous goûter de ce repos, aussi bien le repos physique, mais aussi le repos spirituel. Montre-nous, Seigneur, ce repos qui nous attend quand nous serons avec toi, dans l'éternité. Je te prie cela au Saint-Nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Bonsoir à tous.